Apple a fait parler la foudre en ce début d'année avec le lancement du Mac Studio. Il y a de quoi être emballé par ce tout nouvel ordinateur au positionnement complètement inédit dans la gamme d'Apple, entre le Mac Mini et le Mac Pro. Alors il n'est pas question de refaire ici le test des Mac Studio et du nouvel écran Studio Display dans cet épisode de Kernel Panic. Pour ça, je vous renvoie vers nos articles qui sont déjà bien bien complets, mais vous n'échapperez pas à un gros aperçu avec nos testeurs émérites. En plus de nos ressentis sur cette toute nouvelle gamme, en particulier sur les performances, on va essayer de donner un début de réponse à cette question qui taraude le monde entier. Le Mac Studio confirme-t-il le retour gagnant du Mac ? Spoiler, oui. Bonjour à tous, bienvenue dans Kernel Panic, le podcast du club IGN. Pour parler du Mac Studio et du Studio Display qui vont nous occuper pendant un bon moment sur MacG, voici venir Anthony Nelson Santos. Entre deux benchmarks, il a pris un peu de temps pour venir nous parler. Salut Anthony.
Salut Mickaël, salut à tous.
Mon deuxième invité se souvient encore où il était et ce qu'il faisait lorsque Steve Jobs dévoila le tout premier Mac en 1984. Il les a tous vus, il les a tous testés et malgré tout ça, le Mac arrive encore à le surprendre. J'accueille avec grand plaisir Florian Innocente. Salut Florian.
Bonjour Mickaël, bonjour tout le monde.
Alors avant de commencer, je voulais vous poser à tous les deux une question très simple et très compliquée à la fois. Le Mac Studio, alors, j'achète, Florian ?
Oh oui, on va pas bouder son plaisir. Non, c'est une machine qui est, il y a pas de gros défauts. Sous-entendu, il y a des petits défauts. Il y a même pas de petits défauts. Il y a des petites bricoles. On en parle un petit peu dans le test, par exemple au niveau du son. Apple a dit c'est une machine très silencieuse. Bon, c'est pas la machine complètement silencieuse, mais voilà, on est dans ces petits détails là. Sur les performances, elle est assez exceptionnelle. Donc à ce stade, en l'absence du recul nécessaire, on peut quand même dire oui, c'est une très bonne machine.
Anthony, même constat.
Si tu te poses la question, t'es pas la cible, t'achètes pas.
Ouais.
Mais si tu sais exactement ce que tu peux faire avec ce genre de machine, évidemment tu achètes. Et puis pendant que tu y es, tu achètes la configuration la plus chère. C'est seulement 10 000 balles. Qu'est-ce que c'est qu'à ce niveau-là pour gratter 4 millisecondes dans des trucs super compliqués avec des applications dont je ne soupçonne même pas l'existence. Parce qu'on en est quand même là avec ce genre de machine. C'est-à-dire que même nous, on manque maintenant de capacité de test pour être capable d'aller trifouiller au fin fond de ces machines et commencer à les faire souffler. Donc oui, si tu sais exactement à quoi ça sert, achète. Sinon, à la place, achète 5 ou 6 MacBook Air et te restera suffisamment d'argent pour acheter encore 4, 5 ou 6 écrans et puis en plus, partir en vacances pendant 3 semaines cet été.
Merci à vous à tous les deux pour ces réponses. Alors, bien sûr, ça va être un peu notre fil rouge tout au long de cet épisode. Avant d'attaquer sur les performances, on peut faire un point rapide sur le design du Mac Studio, qui est peut-être le seul point un peu moyen sur cet ordinateur. Comme disait l'autre, le design du Mac Studio, il en touche une sans faire bouger l'autre. C'est un bloc d'aluminium qui n'a pas la classe du Cube G4. Et même le Mac Mini a plus d'allure, non, Florian?
En tout cas, on n'est pas surpris par le design. C'est vraiment dans la droite ligne de ce que fait Apple. On peut pas dire qu'ils ont ouvert une autre voie qui part dans une autre direction. Moi, ça m'a fait penser un petit peu, on en parlait un peu tout à l'heure, on a une sorte de grosse boîte de ces grosses boîtes de bonbons, de gâteaux que tu tiens à deux mains avec plein d'étages à l'intérieur. Il y a un peu ce côté-là. Et c'est avant tout une sorte de cube qu'on a tiré vers le haut. Une sorte de Mac Mini qu'on a tiré vers le haut. La comparaison avec le cube, elle est un peu... Ouais, enfin le cube c'est devenu une icône du design, c'était une machine assez exceptionnelle. Même lorsqu'on sortait l'intérieur du cube, il y avait tout un cérémonial. Ça faisait penser un peu à ce qu'ils font dans les films là quand ils veulent désamorcer des têtes nucléaires. On tire sur un truc. Bon, tout ça on l'a pas sur le Mac Studio. C'est un bloc qui est effectivement pas très il se fait vite oublier, mais c'est aussi dans ce que je disais au début, c'est dans l'esprit du design d'Apple, c'est-à-dire que tout ce que tu vois sur la machine a une fonction, a un rôle. C'est-à-dire, je veux dire par là, c'est pas un PC Alienware où on va mettre des ailettes, des machins, on va faire un peu des fioritures un petit peu autour pour faire joli, entre guillemets. Là, s'il y a un trou, c'est qu'il sert. S'il y a plusieurs trous, c'est qu'ils servent aussi. Il n'y a rien de superflu.
Anthony, la présence à l'avant de plusieurs ports USB-C et du slot pour la carte SD, ça casse la ligne minimaliste de l'ordinateur, mais c'est Apple qui sacrifie en quelque sorte le design pour quelque chose d'un peu plus pratique. On a vu ça aussi avec les derniers MacBook Pro, ils sont plus épais, mais ça profite aux performances et à l'autonomie. Alors finalement, personne ne va s'en plaindre.
C'est Apple qui fait à nouveau ce qu'elle dit qu'elle fait. C'est-à-dire que pendant quelques années, elle avait oublié son mantra qui était que, comme vient de dire Florian, quoi, ce qu'on voit doit avoir une utilité, et que même la manière dont on conçoit la machine et la manière dont on conçoit l'apparence doit suivre la fonction. Et Apple avait oublié ça. Apple a oublié, hein, quand elle a fait des télécommandes complètement au hasard, qu'il y avait des humains qui manipulaient ces télécommandes, et donc qu'avoir un truc qui suivait à peu près à la forme de la main, c'était pas complètement stupide. Et là, c'est la même chose, quoi. Ça s'adresse à une clientèle professionnelle, notamment une clientèle professionnelle qui a deux ou trois interfaces posées sur son bureau et qui, de temps en temps, utilise un appareil photo ou une caméra, avoir deux petits ports USB-C et un lecteur de carte SD à l'avant de la machine, c'est pas complètement tout à fait inutile.
Et c'est un point pour rebondir sur ce que dit Anthony qui est intéressant, c'est qu'on avait un petit peu cette discussion dans l'équipe, et on se demandait... quel avait été vraiment le poids de Johnny Ive dans le design des machines. Tout le monde a dit, quand on râlait parce que c'était trop fin, parce que le clavier marchait pas, on disait oui, c'est à cause de Jonathan Ive, etc., parce qu'il a des obsessions. Mais on finit peut-être par se demander si c'était pas véritablement ça, c'est-à-dire qu'il y a aucun ancien designer d'Apple est venu dire oui, ça se passait comme ça. Mais on peut se demander si c'était pas vraiment ça, si c'était pas quelqu'un qui d'une certaine manière bloquait certaines choses pour des considérations de design ou autre, parce que le retour du lecteur de cartes, Apple récemment disait, je crois que c'était au moment des MacBook Pro, disait oui, on remet des lecteurs de cartes parce que les professionnels en ont besoin. Mais ils en ont besoin aujourd'hui comme ils en avaient besoin il y a 2, 3, 4, 5 ans. Un lecteur de cartes, c'est pas une platine vinyle, c'est pas quelque chose qui a été à la mode, puis qui a plus été à la mode, puis qui revient. Alors donc on le remet. Et il y a une sorte de... Peut-être qu'Apple, certains étaient très partants pour mettre des ports, pour mettre de l'USB-A, pour mettre ses lecteurs de cartes, et puis qu'il y a une décision un petit peu philosophique en disant « Ah ben non, moi j'en veux pas, on mettra pas ça dans mes designs. » Et puis là, la personne partie, si c'est ça, eh ben ils reviennent un peu plus de rationalité.
Et là, c'est complètement nous qui interprétons, hein, mais par exemple, on se posait la question du rôle de Jobs et de sa capacité à dire non, y compris non à Johnny Ive. Et là, t'as un côté, quand Johnny Ive est tout seul et qu'il n'y a plus Papa Jobs derrière lui, il faisait peut-être un peu n'importe quoi. Et maintenant que Ive est plus là, tu sens aussi qu'il y a quelque chose qui a changé dans la manière dont Apple conçoit les machines et qu'il y a une... On est revenu hein, sur cette imbrication complète entre la forme et la fonction et la forme qui suit la fonction tout le temps, quoi. Sans que ce soit moche.
Alors le Mac Studio, ce n'est pas qu'un gros cale-porte, c'est aussi et surtout un ordinateur, et un ordinateur plutôt puissant. Deux modèles sont disponibles, un équipé d'une puce M1 Max, l'autre avec une toute nouvelle puce M1 Ultra. Florian, tu as passé pas mal de temps sur les benchmarks. D'abord, est-ce que les performances du Mac Studio M1 Max sont proches de celles du MacBook Pro? Et surtout, est-ce que ça dépote sa mère?
Oui, on avait deux machines, on avait les deux machines de base, le M1 Max et le M1 Ultra, dans leur configuration standard. Donc effectivement, le M1 Max, il n'y a pas de surprise entre guillemets, c'est-à-dire qu'on retrouve ce que l'on avait sur les portables, sachant qu'on a les portables et le Mac Studio commence pas exactement avec le même nombre de cœurs, mais bon, c'est des broutilles. On va dire que c'est cohérent. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que on n'a pas d'un côté un M1 Max desktop, un M1 Max mobile. Les deux. Ce qui est assez, d'ailleurs, encore pas mal aussi, c'est qu'Apple a mis d'abord cette puce dans un ordinateur portable, avec tout ce que ça implique de contraintes au niveau de la batterie et tout, avant de le mettre dans un desktop où c'est un peu plus simple. Et donc là, les résultats étaient assez cohérents, et effectivement, le M1 Ultra, bah, c'est un cap encore au-dessus. Alors, il va pas deux fois plus vite partout, comme Apple le dit, mais il y a quand même un écart qui fait que des gens qui ont vraiment des besoins alors vraiment extrêmes, iront vers cette machine. Mais on est dans une tendance qui est celle qu'on a vue depuis l'arrivée des processeurs Apple Silicon, c'est que M1, M1 Pro, M1 Max, ben ça monte, quoi, on monte des marches, et puis des fois deux marches d'un coup.
Ouais. Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui t'a étonné quand tu faisais des tests de performance? Est-ce que tu t'es pas dit à un moment que c'était impressionnant? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des tâches qui t'ont paru assez lentes finalement?
Alors, depuis que les premiers M1 sont sortis, on commence à avoir un petit peu moins l'effet de surprise. On commence à s'y habituer un petit peu. Mais c'est vrai, par exemple, je regardais un exemple en particulier. Dans Final Cut, on a un export en 8K. J'avais regardé le résultat qu'on avait fait avec le Mac Pro 2019. On mettait 31 secondes pour faire cette action. Avec le M1 Max, on passe à 22 secondes, donc 31-22. Et avec le M1 Ultra, on passe à 16 secondes. Donc on va deux fois plus vite, déjà avec le Studio Ultra. Et on en est qu'au début de cette transition, enfin au début. Elle est bien entamée, on arrive même à la fin de la première phase, où toutes les machines vont y passer. Mais ça fait qu'un an et demi, un peu moins d'un an et demi, qu'Apple a commencé ça. Donc c'est assez extraordinaire au niveau des performances et de ce que ça promet peut-être pour l'avenir. Peut-être qu'il y aura un ralentissement, peut-être qu'il n'y aura peut-être pas des gains aussi exceptionnels à chaque fois, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait matière vraiment à se plaindre.
Pour que ce soit bien parlant, quand on a testé les MacBook Pro 14 et 16 pouces, pour la première fois depuis des années, dans mes graphiques, j'ai dû remettre à zéro l'échelle des graphiques. J'ai dû changer l'échelle des performances. On en est là. Des tests qui prenaient plusieurs minutes, notamment le test de Final Cut, qui était pensé pour les gros Mac Pro en 2013. C'est maintenant des tests. Le facteur limitant, c'est notre capacité à appuyer sur le bouton stop du chronomètre.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est embêtant, quoi.
on l'a eu avec Pixelmator. On a un test qui utilise une de leurs fonctions qui utilise le Neural Engine. Effectivement, on avait des résultats entre le Max et le Ultra qui étaient. On se disait, mais est-ce que c'est pas parce que j'ai pas appuyé pas assez vite, j'ai pas été. Donc là, il y a des tests. Le truc de Final Cut, on arrive donc à 16 secondes. Dans un an et demi, ça va devenir peut-être plus trop pertinent de le tester parce que ça va se faire presque, pour ainsi dire, tout de suite.
Alors, il y a la M1 Max, mais le Mac Studio, ça a aussi été l'occasion pour Apple de lancer une nouvelle puce encore plus puissante, la M1 Ultra. Pour schématiser, la M1 Ultra, donc c'est comme deux M1 Max connectées entre elles par un connecteur qui s'appelle Ultra Fusion. Alors, sur le papier, on se dit, ouais, ça va faire mal. Mais d'après ce que je comprends, Anthony, il y a effectivement des vraies différences entre les deux puces.
C'est un peu compliqué, parce que sinon, ce serait trop simple et serait pas drôle de venir travailler chez Mac Génération. Jusque-là, la progression était très très linéaire. Tu passes du M1 au M1 Pro, tu doubles les performances. Tu passes du M1 Pro au M1 Max, tu doubles les performances. Et donc, la question c'était, est-ce qu'en passant du M1 Max au M1 Ultra, on double exactement les performances? La réponse est non. On ne double pas exactement les performances. Et ma petite suspicion, sachant que j'ai passé moins de temps avec la machine que Florian, mais que je compte bien rattraper mon retard, ma petite suspicion c'est que c'est pas la faute d'Ultra Fusion. Ma petite suspicion c'est que c'est la faute de nos tests. Et qu'en fait, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, on n'a pas de tests qui mettent suffisamment la pression sur la mémoire pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces machines. Notamment quand on a maintenant des machines qui ont 64 ou 128 gigas de RAM, alors que nos tests ont été conçus pour la plupart quand le top de la pop, c'était d'avoir 8 ou 16 gigas de RAM. Et où là, on est à des moments, quoi. Quand on arrive à faire transiter des données avec un bus, on parle en téraoctets par seconde, et où la bande passante de la mémoire, c'est 832 gigaoctets par seconde, il faut quand même envoyer un sacré paquet de data pour réussir à saturer ces machines et vraiment être capable de faire ressortir toutes les différences entre ces machines. Il faut qu'on réussisse à trouver des tests où on est capable de taper 64 cœurs, on est capable de taper 8192 unités de calcul graphique. 8192. 4 encodeurs vidéo, 32 cœurs de Neural Engine. Nos tests de machine learning ne marchent pas sur les M1 Ultra. on n'arrive pas à faire ressortir des tests qui sont deux fois plus rapides. On a exactement le même résultat que sur la puce M1 Max, ce qui prouve qu'il va falloir qu'on réécrive notre test. Donc là, on a vraiment des soucis pour faire ressortir ça, mais je crois qu'on va y arriver, quoi. Il nous reste encore quelques semaines avec ces machines, on va y arriver.
En fait, ma question, c'est aussi de savoir si le Mac Studio Ultra vaut les 2000 € supplémentaires demandés par Apple, parce que le M1 Max m'a l'air quand même assez costaud déjà.
Je fais toujours la même réponse, qui est qu'à ce jeu, quand on parle de doublement de puissance, à la fin de la journée, en fait, on parle de quelques secondes de gagné par tâche. pour un professionnel. Et là, j'ai envie de dire, c'est le pro qui doit, avec sa calculatrice, tester, s'il le peut, quoi, en Apple Store, quoi, arriver avec ses projets de travail, tester, et puis savoir combien ça lui coûte une seconde de travail, quoi. Parce que si à la fin de la journée il a gagné une heure et demie sur un rendu, à la fin de l'année, les 2000 balles supplémentaires, si c'est 15 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire, la machine elle s'est payée toute seule, quoi.
Et puis il y a une autre, dans le prolongement de ça, il y a aussi l'idée de se dire, tu peux avoir une action que tu vas faire beaucoup plus vite, mais tu peux aussi te dire, tiens, je vais essayer ça. Ah, puis, et si j'essaye ça aussi. Donc tu peux, auparavant, tu vas te dire, ah non, ça va me prendre encore un quart d'heure si je modifie ce réglage ou autre. Là, tu peux te dire, bah tiens, je vais essayer deux ou trois variantes. Ça va me prendre du temps, mais finalement pas tant que ça. Donc il y a au niveau dans certains métiers, peut-être que ça peut être intéressant.
Pour les graphismes notamment, hein, quand on parle de 128 Go de RAM en mémoire unifiée, ça veut dire qu'on a plus de 100 Go de mémoire graphique. 100 Go de mémoire graphique, c'est du jamais vu dans un ordinateur de bureau grand public. On peut faire des choses, hein, quand on fait de la 3D ou quand on fait de la vidéo, quand on a 100 gigaoctets de mémoire graphique. Enfin, là, on peut s'amuser.
Alors, il y a quand même eu un début de polémique avec le GPU de la M1 Ultra, qui contient, on va le rappeler, 48 à 64 cœurs. Le marketing d'Apple laisse penser que le processeur graphique de la puce est plus performant qu'une RTX 3090, qui est vraiment le haut de gamme de Nvidia, mais en réalité, c'est pas le cas. Anthony, est-ce qu'on n'atteint pas la limite de la communication d'Apple sur le ratio performance par watt, ou est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un malentendu ?
On atteint les limites de la mauvaise foi des gens qui ont décidé d'être de mauvaise foi. les graphiques qu'Apple montre ne montrent pas que la puce M1 Ultra est plus rapide que la RTX 3090. Ils montrent qu'ils sont aussi puissants que la RTX 3090, à consommation beaucoup plus faible. C'est-à-dire que quand on a la puce M1 Ultra qui grosso modo consomme 100 ou 120 watts, on est au même niveau de performance qu'une RTX 3090 quand on consomme 200 watts supplémentaires. Et évidemment que la RTX 3090 est beaucoup plus puissante, mais elle sera beaucoup plus puissante en consommant 350, 360, 400 watts, qui sont des enveloppes thermiques qu'on n'a pas encore vues avec les puces Apple Silicon. Le graphique, c'est un graphique comme Apple en fait depuis des années. Évidemment, si on a décidé de pas le lire correctement, on se plante et on raconte n'importe quoi. Et c'est là où quelque part, c'est aussi à nous journalistes de faire le boulot et de débunker ce graphique, parce que ce graphique montre ce qu'Apple a envie de montrer. Ce qu'Apple a envie de montrer, c'est qu'elle est capable de faire tout ça en consommant très peu. Elle n'est pas encore au niveau de la RTX 3090. Le jour promis où elle est capable de montrer qu'elle a une puce aussi puissante que la puce la plus puissante de Nvidia, elle fera pas le même graphique. Elle fera un graphique non pas en consommation, mais en puissance. Et là, évidemment, il n'y aura pas de malentendu.
Alors Florian, les puces M1, ce n'est pas qu'un processeur et une carte graphique, il y a aussi un accélérateur de traitement vidéo, un moteur neuronal pour l'apprentissage automatique. Ça aussi, ça compte. Enfin, ça compte surtout pour les utilisateurs spécifiquement visés par le Mac Studio.
Oui, là, on est dans des... Alors, tout ce qui est média, ça intéresse des applications un peu plus large, on va dire. Le moteur neuronal, ça peut aussi intéresser certaines fonctions dans certains logiciels, ou alors des domaines qui sont beaucoup plus pointus. On avait été un peu surpris s'agissant du moteur neuronal, parce qu'on avait deux tests où les écarts entre le M1 Max et le M1 Ultra n'étaient pas aussi évidents que ce que ça aurait dû être. Par exemple, il y a le moteur neuronal de l'Ultra est deux fois plus puissant que celui du Max, et on n'avait pas ces résultats dans les benches. Donc on en a discuté un petit peu avec les développeurs qui de ces logiciels. Donc il y avait un petit peu des incertitudes sur est-ce qu'il faudrait pas quand même pour que les développeurs adaptent leurs applications à ce nouveau moteur, alors qu'Apple a dit non, un M1 Ultra vous l'utilisez que vos applications, vous avez rien à, il y a pas d'optimisation à faire. On a discuté aussi avec Pixelmator, qui a une fonction d'amélioration des images qui utilise cette partie du processeur. Et qui, alors, il y avait une amélioration dans leur test de 17%, donc on est loin du simple double. Mais en discutant un peu avec eux, ils disaient, ils n'avaient pas encore pu tester la machine, donc ils se basaient sur nos chiffres. Mais ils disaient, nous, on a déjà pas mal optimisé nos trucs, je vois pas trop ce qu'on peut faire en plus. Donc toute la partie un peu neuronale qui s'est nettement améliorée, c'est un petit peu compliqué de l'évaluer, de savoir si ben, s'il va pas falloir que les développeurs finalement fassent un peu un effort d'adaptation, si le x2 est automatique dans certains cas, dans certaines actions ou pas dans d'autres, enfin c'est un peu compliqué là, on n'a pas trop de, pas forcément les éléments ni assez de recul pour voir exactement ce qui se passe.
Apple annonce quand même qu'avec le Mac Studio, on va découvrir une nouvelle exoplanète, donc ça c'est pas rien, mais de manière, on va dire, plus pratico-pratique, Apple a cette ambition de rendre plus accessible des technologies et des logiciels qui demandent généralement pas mal de matos et pas mal de ressources, avec cette idée de faire gagner en productivité. Ça fait moins rêver que la recherche extraterrestre, mais c'est un argument qui va porter dans les studios et les entreprises. Florian, finalement, c'est ce discours qui va faire vendre des Mac Studios.
Oui, d'ailleurs, dans la page de présentation du produit, il parle effectivement, bon, c'est du marketing, il me dit, vous allez peut-être trouver une nouvelle exoplanète, mais quand on regarde les images des personnes qui sont supposées utiliser cette machine, c'est des gens tout à fait standards qui font du Photoshop, qui dessinent des baskets et qui font de la musique. Il y a pas de scientifique, on va dire, dans cette page-là. Ce qui est intéressant, je pense, pour ce public, c'est qu'il y a un choix supplémentaire de matériel. Alors qu'avant, il fallait soit on prend un portable, mais on n'a pas forcément envie d'un portable, soit on prenait un Mac Mini, mais qui était un peu trop, peut-être pas assez puissant, soit on filait vers le Mac Pro qui était trop gros, trop cher, et puis peut-être vraiment surdimensionné. Et il y avait aussi l'iMac, mais qui a disparu, l'iMac 27 pouces et puis l'iMac Pro. Donc on a un choix supplémentaire qui peut-être intéresser pas mal de monde et qui se dit, moi j'ai même pas besoin d'un M1 Ultra, j'ai juste besoin d'un Mac qui est pas énorme, qui est super puissant, parce qu'ils sont super puissants, qui a un prix raisonnable au vu de mon activité, et voilà, ils ont rempli une case qui manquait, je pense, avant. La seule chose qui peut encore manquer, c'est peut-être l'iMac, parce que les iMac 27 pouces sont des machines qui ont été finalement assez appréciées par des musiciens, des graphistes, des créatifs au sens large, qui n'avaient pas besoin de Mac Pro, mais qui avaient une machine rapide, avec un excellent écran, et là, il n'y a plus. Ou alors, il faut la recréer soi-même, avec un Mac Studio, avec un Studio Display, mais c'est pas du tout le même prix. Alors, est-ce qu'Apple va ressortir un iMac pour ajouter comme ça un choix? Bon, il y a des rumeurs un peu contradictoires sur le sujet. Mais c'est plus que voilà, on a un choix supplémentaire et qui se distingue assez nettement de ce qui existait.
Anthony, le Mac Studio, c'est la victoire de la stratégie d'Apple. La puce utilisée dans un Mac portable convient aussi à un Mac de bureau et vice-versa. Alors d'un côté, c'est plus lisible, mais de l'autre, Apple multiplie les versions différentes de ses puces en jouant sur le nombre de cœurs du processeur et de la carte graphique. Et avec la puce M2 qui va pas tarder à arriver, finalement, on va peut-être retomber dans les travers des processeurs Intel où c'est la jungle.
Bah pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? En fait, c'est moins compliqué qu'il y paraît. Pour les machines grand public, c'est très simple. Elles ont toutes la même puce, la puce M1. Il y a une configuration, à la limite une deuxième avec la RAM. C'est assez simple. Et donc finalement, pour les gens qui ne se posent pas la question de la puissance, ils veulent un MacBook Air, ils veulent un iMac, et où finalement la question la plus importante pour eux, c'est quelle couleur. Là, il y a qu'une seule puce et finalement on choisit la couleur, le stockage. Quoi. On achète un MacBook Air ou un iMac aujourd'hui de la même manière qu'on achète un iPhone ou un iPad. C'est le même parcours client dans l'Apple Store. Et on a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 déclinaisons des puces M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra pour les gens qui savent exactement à quoi servent ces puces dans les machines professionnelles. Des gens qui se disent, oui, alors finalement, là, 8 cœurs plutôt que 10 cœurs, ou 10 cœurs avec 24 cœurs graphiques, ou 32 cœurs graphiques, ou 48 cœurs graphiques, 64 cœurs graphiques dans le cas de la M1 Ultra. Et là, ils savent, quoi. Ces gens-là, ça leur fait pas peur de se poser la question de 14, 16, 24, 32, 48, 64 cœurs. Et surtout, ça peut sembler compliqué quand on a le tableau sous les yeux, et là je le laisse, ça fait un peu peur, quoi, notamment dans Numbers, quoi, où les fusionner des cellules, des trucs comme ça, c'est compliqué, et là, moi j'aimerais bien avoir un M1 Ultra dans mon iMac pour faire ça. mais enfin, finalement, les performances sont tellement linéaires avec ces plateformes-là que c'est relativement simple pour les professionnels de faire le calcul, quoi, de calculer le rendement de ces machines-là. Donc il y a une grande complexité, mais finalement les choses sont très simples. On double les performances à chaque fois, ou on double quasiment les performances à chaque fois qu'on monte d'une marche, quoi.
Oui, puis effectivement, comme disait Anthony, c'est que ça peut être compliqué quand on regarde, quand on entre dans le détail d'une famille de processeurs. Mais après, une fois qu'on a un peu compris comment ça fonctionnait, on se dit, tiens, je veux un MacBook Air, je veux un Mac Mini, les deux ont un M1 à l'intérieur. On sait à quoi s'attendre. C'est-à-dire qu'on va pas se dire, ah oui, mais le M1 du Mac Mini, est-ce que par rapport au M1 du MacBook Air, on choisit la machine, et puis un peu le processeur aussi quand même, mais on choisit d'abord la machine et on se casse pas la tête. Ah ouais, mais attends, si on a eu quand même des cas, on a eu des Core i3, des Core i5, des Core i7, des Core i9. Des fois, les trois dans une même famille de portables, c'était un petit peu, puis avec, pas avec des écarts énormes dans les performances, c'était casse-tête.
Ouais. Par contre, il y a un élément qui n'a pas changé avec le Mac Studio, c'est qu'il est aussi modulaire que le Mac Mini, l'iMac ou les MacBooks, c'est-à-dire pas du tout. Il y a bien cette histoire de module SSD qui est relativement facile à enlever, mais on peut pas en faire grand-chose, Anthony.
Non, il y a un petit côté jour sans fin dans cette mini-polémique, parce que bon, on répète la même chose depuis des années là-dessus. Le contrôleur du stockage, il est plus packagé avec les puces de DRAM, il est intégré au système sur puce, donc à la puce M1, et donc on peut pas faire n'importe quoi avec le stockage et penser que ça va fonctionner. J'ai absolument aucun doute qu'on va pouvoir bidouiller en utilisant le mode DFU pour flasher le firmware de la machine. C'est ce qu'on fait en Apple Store avec l'Apple Service Toolkit, hein, en cas de panne, ils changeront les modules et ils flasheront le firmware. Mais c'est une opération qui montre à quel point le stockage est maintenant pour Apple intégré à la plateforme matérielle, et il est même intégré au logiciel complètement. Enfin, on ne peut pas comprendre un SSD aujourd'hui dans un Mac sans comprendre comment APFS gère les SSD, comment macOS gère le cache. Tout ça va ensemble, quoi. C'est pas juste une barrette qu'on vient mettre dans un emplacement, qu'on vient visser, et on rallume la machine, quoi. Et c'est aussi, et ça on a un peu tendance à l'oublier, mais c'est aussi une question de contrôle du modèle de sécurité de macOS. Tout passe maintenant par les signatures cryptographiques, et au bout d'un moment, ces signatures cryptographiques, il faut bien qu'elles soient écrites sur le SSD et qu'on puisse être certain de l'intégrité de ce SSD. Ça, c'est un truc sur lequel on écrit depuis des années, et les gens qui sont intéressés, ils peuvent trouver des dizaines et des dizaines d'articles sur MacG. C'est fatigant à écrire, et j'aimerais bien pouvoir arrêter d'écrire là-dessus, donc s'il vous plaît, lisez, apprenez, et on n'en parle plus. Non, mais...
Va falloir que tu le refasses pour le Mac Studio.
Non, mais il va falloir. Mais il va falloir s'y faire. Le SSD, ça n'est plus une pièce remplaçable par l'utilisateur. C'est très bien que ce soit pas des puces soudées, parce qu'en cas de panne, on pourra enlever les modules et les remplacer. C'est très important pour une machine professionnelle. J'ai suffisamment hurlé là-dessus, notamment pour les MacBook Pro, pour être content que ce soit le cas sur Mac Studio. Mais enfin, il n'empêche, elles peuvent être remplacées par Apple, pas par l'utilisateur.
Alors, on a pas mal parlé du Mac Studio, et c'est bien normal, mais Apple ne s'est pas contenté de créer un nouvel ordinateur complètement inédit dans son histoire. Le constructeur s'est aussi relancé sur le marché des écrans, et c'était attendu depuis longtemps. Mais le Studio Display, ce n'est pas qu'un écran, c'est tout un ordinateur, Florian.
Et au prix d'un ordinateur. Parce que ce qui est marrant, c'est que des fois, on regarde les produits, et puis il y a un nouveau produit qui sort, on regarde le prix, on dit oui, c'est cher, puis après, on regarde un peu à gauche, à droite, les autres produits d'Apple, on se dit, ah oui, mais c'est plus cher que... Ah oui, d'accord, c'est plus cher que ça. Donc là, on a un écran, qui est au prix d'un iMac 24 pouces milieu de gamme, qui est un ordinateur complet, avec un clavier qui permet de faire tout ce qu'il permet de faire. Et encore, c'est avec le pied de base, parce que si on ajoute le pied dont tout le monde a envie et qu'on ne peut que conseiller, parce qu'il est quand même assez pratique, là, on passe à 2 200 €, donc on s'envole vers les... C'est un iMac 24 pouces avec option, haut de gamme. Ouais. Mais oui, c'est un ordinateur plus sérieusement, dans le sens où, donc on a pour schématiser, on a un très bon écran, c'est celui un peu des iMac 27 pouces 5K, un tout petit peu amélioré, mais à la marge. On a un très bon système d'enceinte, et puis on a des fonctions qu'on a vues sur des iPads récents, avec cadre centré et puis une qualité d'image pour la webcam normalement bonne. Donc oui, c'est un véritable ordinateur, en plus du fait que à l'intérieur Apple a pas mis juste un petit contrôleur comme ça qu'ils ont développé exprès, ils ont repris le processeur des iPhone 11 et iPhone 11 Pro, la 13. Et tout ça forme, oui, c'est un ordinateur sans les fonctions principales d'un ordinateur de traitement d'utilisateur, voilà. Et ça ressemble presque, c'est une sorte de mélange de, une sorte d'iMac un petit peu sur, sur processeur d'iPhone quelque part.
Anthony, le Studio Display, donc c'est aussi un écran, qui fait 27 pouces en 5K, qui affiche la gamme de couleurs P3 et il a une luminosité maximale de 600 nits. Est-ce que c'est un bon écran tout simplement?
Non, oui, je sais pas. Tout ça à la fois. C'est une dalle qu'on connaît très bien, cette dalle de 27 pouces en 5K. C'est la dalle qu'on a vue dans le LG Ultra Fine. C'est aussi la dalle de l'ancien iMac Retina 5K. Avec un système de rétroéclairage qui était un peu poussé parce que il était jusque là à 500 candélas par mètre carré. Il est maintenant à 600. Ce qui pourrait en faire un écran HDR. On a quand même des gens dans le monde PC qui prétendent faire de l'HDR avec 400 nits. Et là, Apple a un écran qui en fait 600 et elle active pas le mode HDR dessus, donc ça montre quand même que Apple ne prend pas complètement les gens pour des cons. Ça reste une des plus belles dalles IPS rétroéclairées de manière conventionnelle de la planète. Le problème, c'est que cette dalle, on la trouve aussi dans le Ultra Fine 5K, avec le même hub USB-C qui a un port Thunderbolt 3, avec la même gamme de couleurs DCI P3, avec l'ancien système de rétroéclairage, mais enfin la différence, c'est pas le jour et la nuit. Il est pas en alu, le Ultra Fine 5K, mais enfin, vous savez quoi, le pied, il est réglable en hauteur. Et il vaut 1 400 €. Et on le trouve sur Amazon. Et il marche relativement bien, cet écran. Donc il y a un côté, oui, bon, d'accord. Faut vraiment avoir envie d'avoir la pomme à l'arrière, quoi.
Oui, je disais, Anthony disait fort justement qu'il est réglable en hauteur, le concurrent. Et c'est d'autant plus important que pour une raison qui m'échappe, le Studio Display, ils l'ont baissé. Il est plus bas, mais de 2,5 cm, quoi. C'est pas juste de 3 mm. L'écran est plus bas que sur un iMac 27 pouces, qui est le même écran, même taille, etc., etc. Donc c'est pas la mort, mais quand vous le posez devant vous, quand vous avez l'habitude, moi je travaille à la fois sur un écran externe justement que je règle en hauteur et sur un iMac 27 pouces. Et au début, je me suis dit mais c'est marrant, le truc est un peu bas et on a le regard qui baisse un peu, mais on a le regard qui baisse. Il faut un peu s'adapter, s'habituer, et ou alors faut mettre deux ou trois revues sous le pied, mais ça fait quand même. Un peu flic quand on voit le prix de la machine. Ou alors, il faut prendre le pied, ce qu'ils appellent le pied réglable en hauteur et à l'avant. Mais c'est 400 € de plus. Là, c'est, donc, on rajoute le prix d'un iPad. Et on a une configuration équivalente au prix d'un bel iMac et d'un iPad. Donc, mais ça, on l'avait vu avec le Pro Display XDR. Donc, on va pas non plus prétendre qu'on n'était pas prévenu. Ouais. Le Pro Display, l'écran est livré sans pied. Il faut rajouter 1 000 € pour le pied. Donc, voilà, ils ont continué dans cette tendance. Mais voilà, ces petits trucs sont un peu embêtants. C'est qu'on a à la fois cette dalle qu'on connaît déjà, ces petits trucs avec le pied. Donc il y a du très bon dans cet écran, il y a des choses où on aurait aimé un peu plus de changements.
Alors, on en parlait tout à l'heure, la webcam, c'est sûrement ce qui a fait le plus réagir au lancement de cet écran, parce que sa qualité est quand même assez moyenne par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre. Apple a promis une mise à jour logicielle, mais ça reste un peu une déception, Florian.
Oui, alors les premiers tests, alors c'était marrant parce qu'il y a eu deux sons de cloche. Il y a eu des tests qui disaient, enfin, ou qui ne disaient rien de spécial par rapport à cette webcam, ou qui disaient, bah, elle est bien, voilà, ok. Et puis d'autres tests, la majorité, qui ont dit mais il y a un vrai problème avec cette webcam, et puis Apple l'a confirmé, donc voilà, il y a un vrai problème. Et effectivement, il faut pas longtemps pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui colle pas, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre un écran d'un iMac 24 pouces qui fait du traitement d'image avec sa webcam à côté du Studio Display, et on voit que l'image sur l'iMac est beaucoup plus piquée, enfin qu'il y a une différence, quoi. Donc il y a vraiment un souci sur un écran qui est vendu presque 2 000 €. Donc on a testé ça, on a vu qu'il y avait effectivement un problème. Cadre centré, il y a aussi un petit souci qui a été aussi relevé par les premiers sites américains qui ont testé l'écran, c'est que parfois il est un peu flemmard, c'est-à-dire que le cadre centré normalement vous suit quand vous vous déplacez, mettons vous déplacez latéralement en face de l'écran, bah, l'image, bah, il essaie de vous repositionner au centre, et il y a des moments on se déplace un peu sur le côté, et puis la caméra elle fait rien, comme si elle disait bah je oh, puis il y a d'un coup oh mince pardon, et puis et puis tout doucement voilà, elle vous recadre, et puis il y a des fois elle fait non, elle réagit pas, donc vous êtes sur le côté de l'écran vous êtes à côté, et puis vous dites, mais j'aimerais être, normalement, je devrais être au centre. Donc, vous faites un petit mouvement de la tête, un petit peu comme quand on a un petit tic, là, et hop, la caméra a l'air de, doit détecter le mouvement, et hop, là, elle vous repositionne. Donc, il y a des moments où elle est un peu paresseuse. Ça fait partie des choses qui ont été relevées. La seule chose, c'est qu'Apple, autant Apple a dit oui, il y a un problème de qualité d'image qu'on va régler et vous aurez quelque chose de très bien. Sur cadre centré, je me souviens pas du tout qu'ils en aient parlé, ou alors c'était inclus dans l'idée. Oui, il y a, mais cadre centré, voilà, ils n'ont pas cité expressément ce problème-là.
Anthony, il y a pas mal de nouveaux Mac qui nous attendent encore, mais les Mac Studio, c'est vraiment le signe qu'Apple est vraiment impliqué sur ce marché, même si le Mac Studio, finalement, c'est de la niche dans la niche.
Les ordinateurs de bureau, c'est non seulement moins de 10% des ventes de Mac, mais selon les trimestres, c'est même moins de 5% des ventes de Mac. Et on a maintenant sur le même créneau le Mac Pro, le Mac Studio, le Mac Mini, l'iMac. Alors évidemment, c'est pas le même public, hein. Mais on a quatre gammes de machines qui se vendent à la fin à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, ou au mieux à quelques centaines de milliers d'exemplaires. À côté de ça, on a iPad Air, iPad Pro, MacBook Air, MacBook Pro 13, MacBook Pro 14 et 16, cinq gammes d'ordinateurs portables, on va dire, qui se vendent à, allez, sur un trimestre, entre 15 et 20 millions d'unités. Voilà, c'est d'un côté c'est l'ordinateur pour le commun des mortels, l'ordinateur pour le reste d'entre nous, comme disait Apple du temps où Florian avait seulement 50 ans en 1984. Et cette niche dans la niche qui se vend à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, mais ça montre aussi quelque part, enfin c'est Apple qui fait la belle, quoi. Regardez, on sait faire. Sur ces machines-là, on n'a pas besoin qu'elles soient forcément très rentables. On veut juste vous montrer à quel point on a un rouleau compresseur, on domine le monde entier. Et c'est aussi important d'un point... Ça signale quelque part aussi l'ambition d'Apple. Ces machines, elles sont importantes pour le reste. Pour développer des applications pour iPhone, il faut un Mac. Pour développer les futurs contenus en réalité augmentée qu'on mettra dans les lunettes d'Apple si un jour ils décident à finir leurs lunettes, il faudra un Mac. Il faudra un Mac puissant pour faire de la 3D. Dont un Mac Studio, par exemple. Et quelque part, c'est aussi Apple qui dit « Hey, au fait, si on veut le reste de l'écosystème, il faut qu'on ait les machines sur lesquelles on crée les contenus qu'on consomme sur les autres appareils. » Et donc, il faut aussi cette petite niche de machines qui sont faites pour la création.
Et en parlant de niche, ça sera intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec le Mac Pro, puisqu'ils l'ont annoncé. Parce que là, le Mac Studio... a peut légitimement prendre des utilisateurs qui auraient pu être tentés par le Mac Pro ou qui en ont acheté et qui vont dire non mais moi un Mac Studio ça me suffit largement, c'est très bien. Et je me demandais mais qu'est-ce qui va rester au Mac Pro, c'est-à-dire est-ce que ça, c'était déjà un matériel de niche comme disait Anthony, mais là est-ce que ça va être encore plus de la super niche, ou est-ce qu'au contraire ils vont faire une machine qui va peut-être ouvrir le Mac à une clientèle qui n'est pas du tout chez Apple aujourd'hui? C'est un peu la question que je me posais.
À un moment donné, il y a quelques années, on regardait les Macs et c'était difficile d'être enthousiaste. Il y avait le clavier papillon, les performances bridées par l'obsession de la finesse. Pas beaucoup d'évolution, franchement, ça sentait un peu le sapin. Les puces M1 ont vraiment débloqué l'innovation chez Apple et finalement, les produits les plus excitants du constructeur sont devenus ou sont redevenus les Macs. Florian, on s'éclate. C'est peut-être ça la meilleure nouvelle de la transition Apple Silicon.
Ouais, chez Apple, ils ont l'air de bien s'éclater aussi, surtout dans la division Mac. Parce que les gens à qui on dit, tiens, si tu pouvais nous faire le nouvel iPad Air ou le nouvel iPad 9, peut-être qu'ils s'éclatent un peu moins. Mais bon, il y a quand même des choses très bien dans les iMac et ça reste des... Mais voilà, oui, effectivement, il y a un nouveau projet, une nouvelle architecture, une nouvelle plateforme, donc qui ouvre des portes. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'Apple, là, quand je dis qu'ils s'éclatent, c'est qu'ils doivent, maintenant, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont leur processeur, ils ont leurs idées de design et ils peuvent voir si les deux fonctionnent. Avant, ils étaient tributaires d'Intel. Là, ils peuvent se dire, tiens, si on veut essayer de faire ce design-là, est-ce qu'on peut ? Eh ben, on va voir avec nos processeurs ou autres. Donc, on n'a pas encore vu de Mac fondamentalement nouveau. C'est-à-dire qu'on a eu l'iMac 24 pouces qui a quand même pas mal changé, mais ça reste un iMac. On a le Mac Studio qui est aussi une toute nouvelle catégorie, mais c'est une sorte de gros Mac Mini. On n'a pas vu de nouveaux concepts, de choses. On se dit, ah oui, tiens, ils ont un petit peu, on va dire, réinventé le Mac. Mais ils peuvent se permettre maintenant de faire un peu ce qu'ils veulent au niveau des designs parce qu'ils ont leurs puces, ils peuvent de différentes tailles, de différentes puissances. Ils ont une liberté qu'ils n'avaient pas depuis, ou qu'ils ont peut-être même jamais eu, parce qu'il y a quand même eu l'époque, même l'époque où du PowerPC, ils n'étaient pas complètement aux commandes des processeurs. Donc là, à la limite, ils ont une liberté totale. Donc ça ne peut être que de plus en plus intéressant de voir ce qu'ils vont en faire et comment tout ça va évoluer et ce qui peut en sortir comme nouveau matériel.
C'est aussi incroyablement risqué parce que pour la première fois de l'histoire de l'informatique, à part quelques exceptions pendant quelques mois, si on a envie de s'amuser à regarder dans les années 70 et 80, on a un fabricant, et puis pas un petit fabricant, quoi, qui contrôle absolument tout de sa plateforme. Apple se plante sur un truc, on perd l'intégralité de la plateforme. Vous savez quoi ? Je trouve ça vachement intéressant. Ça me donne envie de me pointer au bureau et d'écrire sur ce que fait Apple. Parce que évidemment, on n'a pas forcément envie qu'il se plante, hein, mais s'il se plante, on a devant nous une vraie catastrophe industrielle. Et s'ils y arrivent, on a devant nous les trucs les plus intéressants dans l'industrie de l'informatique depuis des années. Donc dans les deux cas, on est gagnant, quoi. C'est super, c'est redevenu fun. C'est super difficile d'être blasé en ce moment, quoi.
Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Vous trouverez sur Mac Génération les tests complets du Mac Studio et du Studio Display, des articles réservés bien sûr aux abonnés du Club iGen. Salut Anthony, merci à toi et à tout de suite sur MacG.
À bientôt.
Salut Florian, eh bien écoute, c'est toujours un plaisir de me moquer de ton grand âge de vive voix.
C'est toujours un plaisir d'en prendre plein la tête. Merci Mickaël, à bientôt.
Et quant à nous, eh bien je vous dis à très bientôt pour de futures aventures.